Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Vous êtes 3 100 000 auditeurs à suivre les programmes de Studio Tamani au quotidien. Merci pour votre fidélité et nos excuses pour ce retard. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce grand dialogue qui va réfléchir aujourd'hui sur la transition. Mais comme je le disais, la question principale, elle est la suivante. Le chronogramme électoral est-il tenable? L'organisation d'élections crédibles et transparentes, c'est un des principaux défis de cette transition. Le référendum est prévu en mars 2023. Il sera suivi par les élections des collectivités territoriales en juin 2023, ensuite les élections législatives. La présidentielle, elle, commencera en février 2024. C'est ce qui est prévu dans le chronogramme électoral. Qu'est-ce qui est fait à ce stade? Qu'est-ce qui reste à être fait? Le calendrier est-il tenable? Quelles sont les alternatives? Trois invités vont donner leur point de vue sur ces différentes questions. Nouhum Togo, président du parti Union pour la sauvegarde de la République USR, Adam Amadou Aya, porte-parole du cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie au Mali, et Adam Diko, directrice exécutive de AGICAD Mali. Je suis Mouhamadou Touré, bienvenue à toutes et à tous.
Le Grand Dialogue.
Alors, ce débat, nous l'avons annoncé sur les réseaux sociaux, page Facebook de Studio Tamani, et directement la question qui a été posée par, ou l'avis qui a été donné par Monsieur Ousmane Kodjo sur la page Facebook dimanche, c'est « si ce n'est pas tenable, on va prolonger, c'est tout, ça ne sera pas la fin du monde ». On a republié ce même débat aujourd'hui encore, et Ousmane Kodjo revient là-dessus « on va prolonger encore ». Amadou Aya, êtes-vous d'accord avec M. Ousmane Kodjo qui pense que si le chronogramme n'est pas tenable, on va tout simplement prolonger encore?
Bien, merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, permettez-moi également de saluer les millions de téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Mmh. Et saluer également mes co-débatteurs, Madame Adam, il n'est plus représenté, parents, Monsieur Togo. Mmh. Et vous-même, merci pour tout ce que vous faites pour l'approfondissement de cette démocratie. Je pense que la question, elle est brute. Mmh. Et je vais répondre aussi de manière brute.
Allez-y.
On ne va pas prolonger.
Vous en êtes sûr?
Mais il a été, je réponds encore qu'on ne va pas prolonger.
Adam Diko, pensez-vous, vous, qu'on va prolonger?
Tout d'abord, je salue tous nos auditeurs et les téléspectateurs de Studio Tamani et mes co-débatteurs. Je dirais qu'il est très prématuré de parler de prolongation à ce stade-là. Je fais partie de ceux-là qui sont très optimistes par rapport à la transition. Et moi, je me dis que tout est en train d'être mis en œuvre pour le respect de ces délais. Et je pense que le respect de ces délais, c'est aussi un indicateur de succès de la transition. Donc, pour moi, ceux qui parlent de prolongation à ce stade-là ne sont pas en train d'aider l'équipe de la transition. Je trouve que c'est très prématuré. Aujourd'hui, le débat doit être comment aider les autorités de la transition à ce qu'on arrive à tenir ces échéances électorales à temps imparti et surtout que ça soit transparente et crédible et participatif. Donc, répondre à ces genres de questions, on va prolonger. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que je trouve que ce n'est vraiment pas l'objet du débat et que c'est très prématuré de
tenir. C'est bien sûr l'objet du débat parce que le débat, c'est le chronogramme est-il tenable ou pas. Et c'est un citoyen, Ousmane Kodjo, qui pense qu'on va prolonger au cas où le chronogramme n'est pas tenable. Amadou Aya pense que non. Vous estimez qu'aujourd'hui, tout est en train d'être fait pour que ce chronogramme puisse être tenu. Nouhum Togo, quel est votre avis là-dessus?
Je salue les co-débatteurs, je salue les millions d'auditeurs qui nous écoute. Moi, je crois qu'il y a la volonté politique. S'il y a la volonté politique, tout est possible. Donc, je le crois fermement qu'ensemble, nous devrons travailler pour relever le défi, pour l'intérêt du peuple malien et pour aujourd'hui la crédibilité de tout ce que nous sommes en train de faire. Je crois que c'est tenable.
Ousmane Kodjo, vous avez donc une réponse à cette déclaration que vous avez faite sur la page Facebook de Studio Tamani par rapport à ce débat. Amadou Aya, aujourd'hui, quelle analyse faites-vous de l'évolution du processus d'organisation de ces futures élections?
Merci. Moi, je pense que nous avons déjà tiré la sonnette d'alarme depuis la première transition, depuis la rectification, en disant qu'il faut tout mettre en œuvre pour, en tout cas, respecter en tout cas, sa parole donnée. Et le chronogramme en est un. Et nous pensons que malgré, en tout cas les discours qui affirment la volonté politique, en tout cas de pouvoir respecter le second chronogramme, qui est le second délai, nous constatons en tout cas des grains de sable, en tout cas dans le moulin. Grains de sable parce que nous avons connu un très grand retard quant à la mise en place d'un organe assez important qui est l'EJ.
Mm-hmm. L'autorité indépendante.
Exactement. Plus de 3 mois de retard. Mm-hmm. Nous avons connu, n'est-ce pas, des retards dans l'ensemble des organes qui doivent, en tout cas, accélérer, mettre en place, n'est-ce pas, mettre en route, mm-hmm. je voulais dire, le processus, n'est-ce pas, de ce chronogramme. Mais malheureusement, nous constatons du retard en retard. Alors, nous pensons qu'il n'y a pas une volonté manifeste, à mon avis, de pouvoir respecter ce délai. Dans ce sens que, au mois de juin, nous avons émis au ministre de l'administration territoriale, en tout cas mon parti, la CODEM, la Convention pour le développement du Mali, et membre de Dikiakoura, nos inquiétudes quand on a, le ministre en tout cas de l'administration territoriale nous a déroulé ce chronogramme. Et il nous a répondu, c'était au mois de juin, que c'est effectivement que c'était un chronogramme et un outil de travail et qu'il était, en tout cas, modélable, on pouvait réviser ça. Mais que cela devait se faire avec l'ensemble de la classe politique et que chaque mois, on devait se retrouver au sein du cadre de concertation pour évaluer. Mais du mois de juin jusqu'à maintenant, le cadre n'a pas été convoqué pour évaluer.
Donc et pas d'évaluation.
Pas d'évaluation. Nous avons seulement constaté qu'un retard. Donc, pour nous, aujourd'hui, ce que nous pensons, c'est de nous appeler pour nous dire, compte tenu du retard, de plus de 3 mois de retard, vraiment de nous proposer un autre chronogramme en tenant compte, n'est-ce pas, des délais. Pour nous, s'ils ne parviennent pas, en tout cas, à respecter ce délai, c'est que tout simplement, ils ne sont pas capables de diriger la transition. Ils doivent déposer, n'est-ce pas, comme on le dit, ils doivent déposer la valise.
À ce point.
Mais oui.
Nous, Ntogo, alors, Amadou Aya parle de sonnette d'alarme, manque de volonté manifeste, de retard en retard, pas d'évaluation. Est-ce le même constat que vous avez par rapport
je
à ce processus
pas,
d'organisation?
Je pense réellement que l'évaluation s'est faite aussi avec nos partenaires, parce que nous avons donné l'engagement, après avoir discuté avec les Maliens, la communauté internationale, la CEDEAO. Comme vous le savez, chaque mois, c'est que nous avons la visite presque de la CEDEAO. Nous travaillons ensemble pour évaluer la situation. Il y a le cadre aussi de concertation de Lomé. On continue à discuter avec eux, au moins c'est chaque 2 mois. Je pense aujourd'hui qu'au niveau des réformes, il y a un travail de fond. L'aise, nous avons finalement, ils ont prêté serment il y a quelques jours. Vous avez vu ça aussi, ces retards, c'était dû aux partis politiques qui n'arrivaient pas à se comprendre. Il fallait passer par des tirages qui n'étaient pas souhaitables en son temps.
Retard concernant la mise en place de l'aide, les membres qui sont connus, c'est qui ont prêté serment, ce sont les partis politiques.
Non, je dis les retards, c'était les retards, partis parce qu'on n'arrivait pas à se comprendre, parce qu'il y a eu 2 réunions. On s'est retrouvés 2 fois sur la colline pour discuter comment il fallait mettre les processus de la mise en place de EJ. Les partis politiques, on a fait à peu près 2 ou 3 réunions. Finalement, le ministère était obligé de prendre la décision de demander aux partis politiques de postuler sur les 270 partis politiques. Il y a 120 qui ont postulé et 70 ont été retenus. Finalement, ça a passé par le tirage au sort. On sait les résultats que ça a donné et nous sommes en retard de 2 mois et quelques. Et ça, ce jour-là...
Ah, c'est pas 3 mois.
Non, 2 mois et quelques. Mmh. Donc, ce jour, je pense qu'on a discuté avec l'ensemble de la classe politique pour dire que c'est modélable et que nous avons tenu compte de tout ça pour que nous puissions arriver au référendum. Il nous reste à peu près 5 mois et quelques jusqu'à présent. C'est ce travail de fond qui est en train de faire sur le travail. Il fallait aussi aller pour la révision, l'avant-projet de la Constitution. Comme vous avez remarqué, il y a eu aujourd'hui même le compte-rendu avec la classe politique et la société civile. Demain, ils le feront dans l'ensemble des régions, dans les grandes régions, dans les régions là où il y a pas là où il y a la sécurité, parce qu'ils ont pu regrouper Gao, Tombouctou quelque part, Mopti et d'autres dans certaines localités pour qu'ils puissent faire le compte rendu. Je pense réellement que ça évolue. Et la volonté, parce qu'on a la volonté politique aujourd'hui, on sent que le gouvernement est en train de travailler et que la classe politique et la société est en train de se donner la main pour faire le travail pour que ça avance. France. Mais je dis, il est aujourd'hui, il faut que ça soit clair pour tout le monde, c'est de faire en sorte que nous puissions sortir de ce processus. Ça n'arrange personne de tirer aujourd'hui la transition en arrière. C'est que pour que nous puissions, pour que le Mali revienne dans ce monde de la démocratie et qui sera apprécié par tout le monde, cette volonté politique, je pense que le gouvernement est en train de tout faire pour qu'on puisse rentrer dans les cadres de l'ordre pour que nous puissions organiser rapidement les élections futures.
Donc vous êtes d'accord avec le retard accusé, mais vous estimez que ce
prévu,
sont les partis politiques
prévu,
qui sont
c'était
responsables.
Prévu dans le programme, on savait qu'il pouvait avoir des retards et franchement on avait dit à la rencontre avec le ministre de l'administration territoriale qu'on pouvait résoudre le problème. Il faut aménager un peu le programme, c'est fait avec le chronogramme. Vous savez, si on parle
oui, mais par rapport à ce retard-là, est-ce que ce sont les partis politiques seulement qui sont responsables ou est-ce que les autorités de la transition ont leur part de responsabilité?
Je suis parti politique, je sais qu'il y a eu beaucoup de difficultés pour qu'on puisse tomber d'accord, donc c'est qui a mis beaucoup le programme en retard.
Je reviens sur la question, est-ce que les autorités de la transition ont leur part de responsabilité?
Je partage la responsabilité, mais je sais que 70% c'est les partis politiques.
Alors, Adam Diko, vous, quelle analyse faites-vous de ce processus d'organisation des élections?
Ok, d'abord, moi, je vais faire partir du postulat qu'il y a des choses qui ont été faites et des choses qui restent à faire. Déjà, par rapport au processus d'organisation des élections, il faut quand même admettre qu'il y a un projet de loi qui a été présenté au CNT, qui a été voté. Donc, aujourd'hui, nous disposions d'une loi électorale, chose qui n'était pas le cas à un certain moment donné. En plus de ça, la mise en place des lèges, qui a quand même fait couler beaucoup d'encre. Finalement, lège a été mise en place, même si lège qui a été mise en place est contesté de part et autre, mais quand même il y a l'ège qui a été mise en place et ses membres ont prêté serment. Et il y a aussi la révision annuelle des listes électorales qui a commencé le 1er octobre. Donc ça, c'est des choses qui ont été faites qui peuvent vous donner espoir que nous allons respecter le délai de la transition. Mais hormis cela, il y a aussi d'autres choses qui sont en train d'être passées, notamment qu'il faut quand même rappeler aux autorités par rapport au respect de ces engagements. Notamment le gouvernement a institué un cadre d'échange avec les partis politiques et les acteurs de la société civile pour évaluer le processus des réformes constitutionnelles et électorales.
Et il n'y en a pas eu depuis juin.
Ce cadre-là, oui, il y a eu quand même des réunions, mais depuis un certain temps, ce cadre est quasi inexistant. Alors que ce cadre permet vraiment d'alerter le gouvernement par rapport aux retards qui sont acquisés. Et hormis cela, par rapport à la révision de la liste électorale, ça a effectivement commencé le 1er octobre, mais malheureusement, c'est pas surtout l'étendue du territoire. Jusqu'à présent, à Kidal et à Menaka, le processus n'a pas encore commencé. Et par rapport à l'enrôlement des nouveaux majeurs, jusqu'à présent, ce processus aussi n'a pas commencé, alors que c'est du 1er octobre au 31 octobre que les nouveaux majeurs, notamment les 720 000 nouveaux majeurs de 2021, qui peuvent être inscrits sur la liste électorale. Donc jusqu'à présent, et ils n'ont pas cette possibilité aujourd'hui de s'inscrire. Donc tout ceci peut quand même entacher le processus participatif des élections. Une troisième dimension, ça c'est la supervision du processus de la révision de la liste électorale. Il est prévu dans la loi que l'EJ va superviser le processus de révision des listes électorales. Et jusqu'à présent, les démembrements de l'EJ n'ont pas encore été mis en place, alors que le processus de révision...
Et la révision elle-même a déjà commencé.
La révision elle-même a commencé depuis le 1er octobre, parce que c'est ce que la loi dit, mais elle n'est pas en train d'être observée par les autorités, parce que c'est l'EJ qui doit faire ce processus d'observation. Et l'EJ n'est pas encore démembré, n'est pas véritablement sur place au niveau des collectivités pour faire cette révision. Donc voici un peu des choses qui ne marchent pas, qu'on doit alerter les autorités à les corriger très rapidement.
Est-ce que cela veut dire, selon vous, on a mis la charrue avant les bœufs en ce qui concerne la révision des listes électorales, si bien sûr c'est l'EJ qui doit la superviser?
Alors il y a deux dimensions. Par exemple, par rapport à la révision de la liste électorale, là, c'est la loi qui les dit. Ça commence le 1er octobre et ça termine le 31 décembre. Donc, le gouvernement ne peut ne pas le commencer le 1er octobre, sinon ça serait une violation de la loi électorale. La deuxième dimension qui est que la révision de la liste électorale aussi doit être supervisée par l'EJ, c'est aussi la loi. C'est aussi la loi qui le dit. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de violer la loi. Mais je rappelle que la violation de cette nouvelle loi n'a pas commencé maintenant.
Les autorités de la transition, le Mali ou les partis politiques?
Le Mali. Le Mali. Je pense que la faute incombe beaucoup plus aux autorités qu'aux acteurs politiques, parce que depuis la mise en place des l'EJ qui est passée par un tirage au sort, que ça soit les partis politiques ou les acteurs de la société civile, chose qui n'était pas quand même prévue dans la loi. Et l'autre chose qui peut quand même être un autre problème, c'est qu'il est prévu que les les organes, notamment le collège électoral, soient convoqués 6 mois avant les élections. Et nous sommes déjà à 5 mois du référendum qui est prévu en mois de mars. Donc, je pense qu'à un moment donné, le gouvernement aura besoin d'avoir ces cadres d'échange avec les acteurs politiques et la société civile pour arriver à un compromis. L'idéal n'est pas la violation de la loi, mais ce qui serait idéal quand même, c'est de rester dans le délai de la transition.
Non, Togo, est-ce que vous êtes d'accord avec tout cela? Violation de la loi électorale. Le cadre d'échange, Amadou Aya estime qu'il n'y a pas eu de réunion depuis juin. Et Adam Diko estime que ce cadre est quasi inexistant, puisqu'il devrait même évaluer le processus. Aujourd'hui également, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que la convocation du collège électoral devrait être faite 6 mois avant...
En février 2023.
En février 2023. Mm-hmm. Donc, un mois avant le référendum. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes d'accord avec toute cette analyse?
Bon, moi, je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas eu franchement des concertations parce qu'il y a... Il y a un problème de choix, le calendrier.
Mais pourquoi ce cadre d'échange, ce qui doit...
Bon, c'est peut-être... Non, comme vous le savez, aujourd'hui, la gestion pose beaucoup de problèmes parce qu'il y a d'autres cadres, comme je vous ai cité, le cas de la CEDEAO, le cas de Lomé. Aussi, il nous faut quand même à l'intérieur des concertations. Moi, je le crois parce que c'est le programme. Il faut revoir rapidement. Je suis d'accord que le ministère de l'Administration se mette au travail pour convoquer les partis politiques et la société civile. Pour qu'on en discute, quand même, c'est une réalité, parce que c'est des promesses politiques, il faut le tenir. Donc, moi, je suis d'accord avec ça.
Et la violation de la loi électorale?
Bon, comme vous le savez, moi, je vous ai dit que dès le départ...
Comme je le sais, moi, je ne sais pas.
Tu le sais, parce que
je précise cela.
Non, comme tu le sais.
Je ne sais pas. Je vous donne la parole en posant des questions.
Tu le sais très bien. On a mis quand ils viennent de prêter le serment, il y a seulement le vendredi, tu le sais très bien. Alors, donc, ici, nous avons parlé, je t'ai dit qu'il y a quand même des lenteurs au niveau de la mise en place de S'il y a la mise en place, s'il y a de l'inter, si c'est seulement vendredi qu'ils ont prêté serment, comment ils peuvent contrôler?
Donc, vous êtes d'accord avec la violation de la loi électorale?
Non, on s'attendait à ça. Moi, je l'ai dit depuis longtemps que le processus, depuis au niveau... On est revenu sur l'organisation, la mise en place du EZ. Il fallait s'attendre à ces retards-là. Parce que moi, j'étais convaincu, entre hommes politiques, ce n'était pas facile que les gens se comprennent. L'ADEMA et les grands partis politiques comme le RPM proposaient qu'on les choisisse eux-mêmes. Les jeunes partis politiques ne voulaient pas. Il y a eu des tiraillements. Donc, il fallait passer, même si la loi n'avait pas prévu de faire des tirages, il n'y avait pas d'autre alternative. Parce que le ministère a dit à tout le monde, si vous ne tombez pas d'accord, nous prenons nos responsabilités.
Alors, c'est convoquer le collège électoral en février, tenir le référendum en mars 2023, cela aussi, est-ce que vous trouvez que c'est normal?
Non, je dis, le référendum, ça marche. Mm-hmm. La convocation du collège, c'est en février 2023. Mm-hmm. Et les élections communales, on a ça sur le référendum. Effectivement, bon, compte tenu donc du programme que nous avons reçu, moi, mon problème, c'est que je suis convaincu qu'il y a la volonté politique. Si ça ne va pas, donc on se retrouve dans ce cadre d'échange pour voir réellement ce qu'il faut faire.
Avec tout ce que Ntogo vient de dire, Amadou Aya, vous voyez, est-ce que vous êtes convaincu? Parce que vous estimez qu'il y a un manque de volonté manifeste.
Mais oui. Mais d'abord, je rectifie, M. Togo, que la lenteur de la mise en place de l'EJ n'est pas due aux partis politiques. Souvenez-vous que le ministre de l'Administration intérieure a saisi l'ensemble des partis politiques pour faire des propositions et également, pareil, le même courrier a été envoyé aux acteurs de la société civile. Et chacun, en tout cas en ce qui le concerne, en parlant en tout cas des partis politiques, chacun a fait des propositions. Nous avons été conviés pour faire un dépouillement de ce qui a des propositions. Je vous rappelle que la proposition numéro 1 en pyramide, ce qui revenait, c'était le partage, n'est-ce pas, des représentants des partis politiques par regroupement. Et qu'il y a eu des propositions de tirage. C'était la dernière des propositions. Mon parti, la CODEM, avait proposé à ce que nous tenions compte, en fait, du fait majoritaire. Le fait majoritaire en termes de conseillers municipaux. Donc, cette proposition était arrivée en troisième position. Donc, c'est pour dire qu'il y a eu des propositions. Le ministère, contre toute attente, est revenu pour prendre la dernière des propositions. Le diagramme existe à leur niveau. Donc, c'est la dernière des propositions des partis politiques qui a été prise pour en faire, en fait, le tirage au sort. Ça n'a pas été la faute des partis politiques. en quoi le processus, les partis politiques ont boycotté. Non. Je rappelle également que même au niveau de la société civile, en tant qu'acteurs, nous avons suivi. Les grands acteurs de la société civile n'ont pas participé au tirage au sort. Quand vous prenez dans ce qui s'est passé actuellement, c'est vrai, ceux qui ont prêté serment, moi j'en connais plein, plusieurs, mais les représentativités. Mais je pense que nous avons déjà attiré l'attention que ce qui a prêté serment peut faire l'objet de difficultés encore demain. Que Dieu nous en garde.
Quelle difficulté ?
Non, parce qu'il ne représente pas l'ensemble de la classe politique et même les acteurs de la société civile. Comment vous prenez des gens qui, par exemple, qui disent l'association des régions non opérationnelles ?
Mais monsieur Aya, donc, est-ce possible dire, à travers l'aide de représenter l'ensemble de la classe politique ?
Mais oui, quand vous consultez les gens, vous faites une pyramide. Donc ça veut dire que c'est la démocratie. Vous devrez passer par là où il y a eu le plus grand, c'est-à-dire les plus grandes propositions. C'est ça la démocratie. S'ils avaient pris, en tout cas, c'est les pyramides qu'ils ont eu à faire, le diagramme qu'ils ont eu à faire, à partir de là, s'ils avaient, ils avaient pris, je crois que les gens n'allaient pas aujourd'hui tirer sous l'aige. En parlant de l'aige, mais ce n'est pas 2 mois, c'est 3 mois. Je vous rappelle que, ici, le décret de nomination du collège, n'est-ce pas, des membres, c'était prévu le mercredi 13 juillet, n'est-ce pas? Et le président a signé le décret le 12 octobre. Vous voyez, ça fait 3 mois de retard. Il n'y a que dans la signature du décret. Ici, la prestation du serment était prévue le 28 juillet. Ils ont prêté le 21 octobre. C'est 3 mois de retard. Et le processus de recrutement, de démembrement n'a même pas commencé. Et au Mali et à l'extérieur. Sans parler de la formation. Les élections, c'est une formation. Il y a la formation, il y a les équipements, la mise en place. C'est pour cela que nous pensons qu'aujourd'hui, vous avez parlé de Kedal Taoudeni, mais moi, je parle du centre. En venant même, j'étais tout là au téléphone. Au centre, dans beaucoup de localités, ce qui est normal, c'est-à-dire que de chaque année, la révision administrative n'a même pas commencé. Ça, c'est l'administration, parce que c'est l'administration, ce n'est pas les partis politiques qui doivent faire cette révision annuelle.
Alors, monsieur Aya, vous avez parlé de ce qui ne va pas cadre de l'organisation de ces élections.
Pour nous.
Mais selon vous, qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui a été fait de positif ?
Non, ce qui est fait de positif, et on ne peut pas dire que tout va mal. Il y a eu ce que nous parlons, la loi électorale. Ça, c'est une avancée. Nous avons aujourd'hui un avant-projet de constitution. Nous pensons que c'est une avancée. Mais aussi, il faut rappeler, parce que c'est important de rappeler que cet avant-projet, s'il passe aussi, on va revoir la loi électorale. Donc, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas que nous on n'ait pas un optimisme béant. C'est pour cela que nous pensons que le cadre de concertation, c'est pour ça que nous avons, c'est mon parti qui a interpellé le ministre de l'administration territoriale, à ma part, par ma personne, pour dire les enjeux. Et il nous a dit, c'est là où il nous a dit, c'était un outil de travail, nous savons que c'est un outil de travail, le chronogramme. Mais si chaque, il avait promis de nous réunir chaque mois pour faire l'évaluation. Mais je vous dis que jusqu'à présent, on n'a pas été appelé pour évaluer ce processus. Nous pensons.
Mais dans ce cas, la loi électorale est-elle réellement une avancée?
S'il mais oui, c'est une avancée. Non, c'est une avancée parce qu'on ne peut rien faire sans loi électorale.
Mais il faut quand même revenir quelque là-dessus soit, après
aucun,
l'adoption.
Aucun texte n'est parfait. Nous ne savons aucun texte n'est parfait. Les textes sont appelés à être, n'est-ce pas, à être évalués, à parfaire. Donc c'est un texte qui est là. Pour ce qui est aujourd'hui des membres de l'EJ, ils ont prêté serment, même s'il y a des retards. Donc c'est pour nous, il y a quand même aujourd'hui un dispositif. Mais ce dispositif a besoin effectivement d'être accompagné. Et pour que ce dispositif soit accompagné, nous avons besoin d'être avec le ministre de l'administration territoriale pour dire ce que nous pensons, pour voir dans quelle mesure nous pouvons, n'est-ce pas, rattraper le temps perdu, comment il faut travailler pour y arriver à respecter, n'est-ce pas, les échéances électorales. Donc c'est en ce moment seul que nous pouvons dire oui, il faut peut-être déplacer d'une semaine ou 2 semaines, c'est possible. C'est pour ça au départ j'ai dit que c'est brut, mais dans les débats je voulais revenir dans ça. Si les gens savent qu'il y a une avancée, il y a un travail participatif qui est fait, mais s'il y a un glissement de 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais de toute façon on appréciera, c'est la classe politique, c'est le Mali, parce que ce qui est important aujourd'hui c'est plus que nous puissions sortir de cette situation. Donc à mon avis, n'imputons pas, n'imputer la lenteur aux partis politiques, je pense qu'il faut aller regarder, voir les faits. Quand tu parles de partenaires,
on donne la parole à Adam Diko. Le Mali vit une situation que beaucoup jugent exceptionnelle, la transition. Mais quand vous évaluez l'organisation de cette ou de ces futures élections-là et les précédentes, qu'est-ce que vous voyez de concret qui change, qui pourrait rassurer les Maliens à aller vers des élections crédibles et transparentes?
Alors ça c'est une question très difficile parce qu'au Mali, on a toujours organisé les élections comme si on était surpris par les élections. On organise les élections dans la précipitation, comme si ce n'était pas connu, la date n'était pas connue. Et ça fait qu'on fait toujours des élections où les partis politiques, les acteurs de la société civile, les partenaires, tout le monde y va, mais tout le monde sait que ça ne va pas bien se passer. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu le processus qui est en train de nous conduire, on voit que c'est la même chose, au fait. Parce que on parle des lèges. C'est mis en place, c'est bien, mais les démembrements ne sont pas mis en place et le travail n'a pas commencé. On parle de l'adoption d'une loi qui est très bien, mais sauf qu'il n'y a pas assez de cohérence. Aujourd'hui, à ce jour, il y a eu beaucoup d'ateliers avec le ministère de l'administration territoriale, notamment sur la charte des partis politiques qui nécessite une révision, sur la loi organique qui nécessite une révision, sur le découpage administratif. Et on sait que tous ces éléments, une fois qu'il y a eu des changements, ça va avoir une répercussion sur la loi électorale. La deuxième dimension, c'est par rapport à la révision constitutionnelle. Nous savons que l'avant-projet qui est proposé, si jamais les éléments constitutifs qui sont dedans en lien avec la Cour constitutionnelle, en lien avec les réformes constitutionnelles et électorales, cela va nécessiter forcément de revoir la loi électorale. Mmh. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler avec une loi électorale alors que nous savons tous que le processus va nous amener à changer cette loi électorale parce qu'elle n'est pas complètement en conformité avec ce qui est demandé, avec les réalités sur le terrain. Donc, il n'y a pas de grand changement, en fait. Il n'y a pas de grand changement parce que c'est toujours cette pression des partenaires que nous sentons pour aller aux élections, alors que nous-mêmes, au niveau des autorités politiques, on ne sent pas une volonté réelle de changer véritablement les choses en profondeur pour qu'on ait des élections crédibles, transparentes et vraiment que les résultats vont refléter les besoins et les aspirations des populations. Donc il n'y a pas de grand changement à ce niveau pour le moment.
Convoquer également le collège électoral en février 2023, comme le dit Nuhum Togo, et ensuite tenir le référendum en mars 2023, un mois après. Les collectivités territoriales également, les élections qui les concernent en juin 2023. Est-ce que vous pensez
Cela n'est pas tenable. Cela n'est pas tenable quand on regarde l'organigramme qui est proposé par le ministère. Mmh. C'est le collège est convoqué 6 mois avant. Notamment, et aujourd'hui, quand on parle du collège, c'est surtout l'EJ. C'est surtout l'EJ avec les autres démembrements. Donc l'EJ ne peut pas être convoqué un mois avant les élections.
Ce qui est important...
Est-ce tenable ou pas?
Bon, on se bat pour ça. Moi, je dis...
Oui, mais est-ce que c'est possible?
L'impossible n'est pas malien. Donc, on se bat.
Mais Adam estime tout de suite qu'on va toujours dans la précipitation et c'est le même constat qui a été soulevé lors des précédentes élections.
Non, moi je ne crois pas, parce qu'effectivement il y a beaucoup de difficultés. Mmh. La pression, ce n'est pas seulement nos partenaires de l'extérieur, même à l'intérieur. Mmh. Regardez ce qui se passe, les hommes politiques, d'autres sont pressés, pensant que réellement ils sont sortis, ils sont out. Mmh. Ils sont pressés aujourd'hui de revenir pour reprendre, ils pensent que c'est leur chose, ils sont pressés. Alors donc il y a des pressions un peu partout, la communauté internationale, c'est vrai, la CEDEAO, d'autres. Donc, vous avez remarqué tout récemment la visite des Américains.
Ils sont pressés, je prends vos mots, mais aujourd'hui, vous estimez que l'impossible n'est pas malien. Dites-nous, vous, comment vous verrez la tenue des élections avec la convocation du collège qui est un mois avant?
Non, je suis convaincu que s'il y a la volonté politique, on va se retrouver, on va discuter.
Est-ce qu'il y a cette volonté
politique? Il y a la volonté politique, tu le sais très bien, toi, mon cher ami. Tu le sais très bien.
Je répète encore, je ne sais rien. Je pose des questions. Adam, vous vouliez réagir par rapport à ce que Nuhum Togo est en train de dire?
Pour confirmer ce que je disais, en 2018, nous avons alerté le gouvernement de Faye Ibrahim-Boubacar Keïta par rapport à l'enrôlement des nouveaux majeurs. En 2020, nous avons fait la même chose à la veille des élections législatives. Il y a eu un enrôlement spécial, mais qui n'a pas pris en compte les nouveaux majeurs. En 2021, il y a eu la révision de la liste électorale, qui n'a pas pris en compte les nouveaux majeurs. Aujourd'hui, quand vous regardez l'état civil, il y a 780 000 nouveaux majeurs. c'est-à-dire des gens qui ont déjà été enregistrés, qui ont leur empreinte, mais qui n'ont pas la photo, qui doivent être sur la liste électorale. Encore aujourd'hui, nous sommes en train de faire la révision de la liste électorale, mais les commissions administratives n'ont pas la possibilité de prendre ces personnes-là. Donc ces 780 000 personnes ne pourront pas voter lors du référendum. Et c'est le même processus. Donc du coup, c'est que nous, on a...
Vous êtes optimiste par rapport à la tenue de ce calendrier.
Oui, par rapport à la tenue, je suis optimiste. Mais la bonne tenue, c'est ce que vous avez. Est-ce qu'il va y avoir la différence entre ces élections et les élections que nous avons vues jusqu'ici? Voilà pourquoi j'ai dit non, parce que je ne vois pas la cohérence dans les actes. L'autre chose qui est extrêmement importante, ça c'est la révision de la charte des partis politiques et la loi organique. Ces deux choses-là sont extrêmement importantes et malheureusement, on est parti directement à la loi électorale sans pour autant finir avec ça, alors qu'il y a eu des ateliers avec la classe politique, avec la société civile pour toiletter cela. Et encore, nous allons y revenir. L'autre chose par rapport au nombre de députés, un jour ce problème va faire surface. Le nombre de députés qu'on a aujourd'hui équivaut à moins de 10 millions de Maliens. Nous sommes aujourd'hui à plus de 20 millions de Maliens et nous allons partir avec le même nombre. Donc en termes de cohérence, on ne voit pas beaucoup la cohérence et on ne voit pas surtout la différence entre les autres élections et cette élection. Mais pour la tenue, oui, quand la volonté politique est là, on peut tenir. Mais est-ce que ça va être des bonnes élections? Est-ce qu'il y aura la valeur ajoutée par rapport aux autres élections?
Doit-on s'attendre à de bonnes élections,
Amadou Ayane? Non, c'est pour ça que quand on parle d'élections transparentes et tout ça, je pense que ce n'est que des mots.
Ah bon?
Oui, c'est des mots. On n'aura pas une élection transparente, crédible actuellement. On peut, dans le cadre d'un consensus, on peut aller à une élection. Parce que le pays est dans une difficulté et on n'est pas dans un pays très normal. Donc, vous savez, l'aspect sécuritaire,
mais
il est dans
réformes,
donc,
ces
non,
efforts,
mais vous avez, non, elle a dit, parce que j'étais dans les ateliers qui avaient été organisés par l'actuel ministre de l'administration intérieure, qui est PM intérimaire, où il y a eu des ateliers sous la relecture de la loi électorale qu'on a mis de côté. Et il y a eu la charte des partis politiques, il y a eu un atelier dessus, il y a eu un atelier sur la loi organique.
Justement,
mais tout ça, mais nous avons travaillé sur ça.
Des informations mais
nous,
sur
non, nous avons travaillé, parce que j'étais même membre d'une commission de rédaction. On a travaillé le document avec l'administration. Ils ont mis dans les tiroirs. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une... Non, c'est parce qu'il n'y a pas une volonté politique. C'est tout. Donc pour dire, je voulais juste rectifier par rapport à la loi, à la nouvelle loi électorale, c'est que le délai de convocation de collège, c'est 90 jours. Ça fait 3 mois. Voilà, 3 mois. Voilà, je voulais juste rectifier parce que souvent, on se perd dans les pages. Donc, c'est pour dire tout simplement que, à mon avis, elle a parlé d'un problème important. C'est l'adoption de l'ordonnance portant création des situations administratives et des collectivités territoriales et les textes connexes dans le cadre de la réorganisation territoriale.
On va revenir à ça tout à l'heure. Mais okay. Jack Cassé, sur Facebook, vous adresse une question. Le cadre d'échange pour une transition réussie va-t-il attaquer la décision portant création de l'AIDE?
Vous savez, nous ne sommes pas de ceux qui font comme... ceux qui ont attaqué le CNT, nous ne sommes pas de cela. Nous attirons l'attention.
Et si ça ne change pas?
Mais il y a beaucoup de choses que nous avons attiré l'attention, mais nous n'avons jamais fait recours au tribunal. Vous avez vu le CNT, jusqu'à présent la Cour suprême n'a pas vidé, n'est-ce pas, le contentieux. Ils sont en train de siéger et il y a une présomption d'innocence quand même. Mais voilà, donc pour nous, au niveau du cadre d'échange, nous n'avons pas à aborder la question pour dire que nous allons attaquer. Nous ne sommes pas dans cette disposition pour dire que vaille que vaille, nous allons créer des problèmes, n'est-ce pas, à la transition. C'est pour cela que notre nom, c'est le cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie. C'est des échanges.
Donc attaquer la décision serait créer des problèmes à la transition.
Oui, mais en tout cas, de toute façon, ça peut encore. Si aujourd'hui, admettons que c'est vrai, chacun est libre de le faire. Si il est arrivé à être, n'est-ce pas, au niveau de la Cour suprême, à attaquer ce décret et qu'on dit qu'il faut reprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on repart à zéro. Donc, chaque parti réfléchit de voir quelle est sa responsabilité dans la conduite de cette transition.
Dans votre deuxième intervention au cours de ce débat, vous disiez qu'il faut un autre chronogramme. Est-ce que vous pensez, Nuhum Togo, que ce chronogramme va changer, va évoluer pour répondre aux besoins de certains Maliens?
Vous savez, le chronogramme jusqu'à présent, je dis, nous allons tenir. C'est ça, la position du gouvernement.
Les élections se tiennent.
Les élections se tiennent. Nous
Est-ce
battons.
Qu'elles seront de bonnes élections, comme l'a soulevé Adam?
J'ai dit, aux États-Unis, il y a eu des élections. On a vu les résultats. D'autres ont passé, mais finalement, ils ne sont pas venus avec les grands électeurs. Bonne ou pas bonne, c'est la position qu'on se donne. Et je pense que l'essentiel, c'est d'organiser une élection crédible.
Excusez-moi.
Non, c'est la position qu'on se donne.
Pour que les auditeurs et les téléspectateurs et téléspectatrices puissent mieux comprendre. Est-ce que Noum Togo est en train de dire que ce soit de bonnes ou de mauvaises élections, les élections auront lieu.
Il y aura des élections acceptables et crédibles, ce qui est important.
Mais elles ne seront pas bonnes.
Bonnes ou pas bonnes, je dis, la position, c'est de la personne. Aux États-Unis, on a vu ce qui s'est passé. Tu étais là, tu avais
quand
suivi.
Quand Adam vient au secours de Noum Togo.
Tu as suivi ce qui s'est passé aux États-Unis. Non, tu as vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors donc, pour moi, donc, je suis convaincu d'une chose, il y a eu beaucoup d'évolution et nous allons travailler pour que ça soit une élection crédible et que les Maliens se retrouvent. Parce que vous savez, en tant qu'homme politique, les autres élections, on sait comment ça s'est organisé au Mali. En général, la population elle-même ne se déplace pas. Nous avons vu comment on achète les électeurs. Tout ça, je pense, cette fois-ci, avec la loi, les dispositions que nous sommes en train de prendre, va permettre que l'élection soit crédible et que l'achat de conscience ne rentre pas dans le jeu.
Alors, dans les solutions. Parlez-nous de ces dispositions. Quelles sont ces dispositions concrètement qui sont prises aujourd'hui qui vont permettre d'avoir, vos termes, des élections acceptables?
Nous sommes en train de réfléchir en termes de partis politiques.
Nous, c'est qui?
Nous, je parle de l'ensemble de la classe politique. Ils sont en train de réfléchir, nous sommes en train de réfléchir, la société civile est en train de réfléchir pour la bonne élection. L'élection, ce n'est pas le gouvernement seulement, chacun a son jeu. Chacun doit jouer sa partition pour que nous puissions avoir une élection crédible. D'abord, en termes de transparence. Il faut que l'élection, que les Maliens se reconnaissent. Moi, toujours, en tant qu'homme politique, je dis à tout le monde, il faut que les Maliens acceptent de faire la politique. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est seulement certains hommes politiques avec un peu de moyens qui acceptent de faire la politique. Les autres pensent que ça ne les intéresse pas.
Est-ce que les partis politiques, par exemple, explique aux Maliens lambda c'est quoi la politique, c'est quoi son rôle?
Bon, on le fait avec les moyens de bord, mon frère, on le fait avec les moyens de bord. On a, la société civile aussi explique. Mais aujourd'hui, c'est que les moyens que nous avons, nous ne pouvons pas avec l'insécurité. Il faut prendre tout ça en compte, parce que si on parle d'une très bonne élection, il faut d'abord la sécurité. Mais aujourd'hui, je pense que ce que le gouvernement est en train de prendre comme disposition en termes de sécurité, c'est rassurant. Parce qu'aujourd'hui, les dernières informations que j'ai au niveau du ministère de la Défense, c'est que nos militaires se déplacent pour aller chercher les touristes jusqu'à dans les confins du Mali. Et donc, pour moi, c'est rassurant. Ils sont en train de travailler sur les élections de ceux qui sont hors du système, hors du Mali.
Est-ce que vous pensez que certains habitants au nord du Mali ont cette même vision de vous? Par exemple, quand il y a une ville morte à Gao, notamment.
Écoutez, c'est pas facile de gérer sur place. Mais aujourd'hui, à Gao, il y a des efforts. Et vous savez comment Gao a été géré depuis quelques années. Mais aujourd'hui, il y a des efforts. En termes de sécurité, ce n'est pas facile. Gao est la ville la ville surarmée. Il n'y a pas de famille aujourd'hui s'il n'y a pas de Kalachnikov à Gao.
Donnons la parole à Amadou Aya maintenant. Quelle solution proposez-vous, Amadou Aya, pour que des élections crédibles, transparentes puissent être organisées?
Pas d'élections transparentes et crédibles. Moi, je parle d'élections acceptées, oui. Peut-être des élections qui seront acceptées. Dans le cadre d'un consensus, dans le cadre d'un compromis politique, pour nous permettre de sortir vraiment de cette situation. Pour moi, aujourd'hui, malgré tout ce qu'on nous raconte, à mon avis, je n'ai pas encore entendu le retour de l'administration dans des partis, en tout cas, qui ont été occupés. Dans l'ensemble aujourd'hui du territoire, nous n'avons pas notre administration, le retour de l'administration. Chose indispensable pour une élection. Le retour de l'administration. Quand je parle de l'administration, il y a les services sociaux de base, il y a les écoles. Vous souvenez-vous, vous avez plus de 2000 écoles fermées. Or, ce sont les enseignants qui sont les présidents des bureaux de vote. Donc, à mon avis, il faut travailler pour le retour de l'administration de manière effective. Le retour, en tout cas, des déplacés, mais pour permettre également les conditions pour les Maliens, également les hommes politiques, d'aller battre campagne. Sinon, aujourd'hui, malgré ce qu'on nous raconte, à mon avis, qu'on nous parle, vous dites, les dispositions sont prises pour aller, n'est-ce pas, aller déloger les terroristes, mais ce n'est pas accompagné par le retour de l'administration. Je peux vous citer plusieurs cercles où dans beaucoup de choses où les communes sont délaissées. Vous n'avez pas de maire.
Quelle autre solution?
Vous n'avez pas. Donc l'autre solution, c'est aujourd'hui le consensus, le compromis. Je le dis depuis très longtemps.
Est-ce que vous pensez que c'est possible?
Mais le compromis est possible parce que nous sommes tous ce pays. Et à cela, je pense que c'est à l'administration de convoquer le cadre de concertation qui est un cadre légal. Non, mais un cadre légal qui, depuis le temps de Erlaf, a été instauré par un arrêté. Un cadre d'échange qui doit regrouper l'ensemble des partis politiques, de la société civile et également les signataires de mouvements signataires de l'accord de paix. Donc, à mon avis, il faudrait instaurer ce dialogue entre nous, Maliens, pour que nous puissions nous pardonner. Nous ne puissions pas dire, comme l'a dit mon grand frère tout à l'heure, que oui, certains politiciens veulent venir. C'est ce que nous devrons abandonner. Parce que vous souvenez-vous, excuse-moi, que ceux qui ont fait le coup d'État à Modibo Keïta, les gens de Modibo Keïta ne vous attendaient à ce qu'il échoue. Et ceux qui ont fait le coup d'État à Moussa Traoré attendaient à ce que les gens de la démocratie échouent. C'est pour cela que ceux qui sont venus encore disent oui, le problème, c'est les démocrates. Il faudrait qu'entre Maliens, on s'accepte. Qu'on se pardonne.
Vous proposiez un autre chronogramme.
Le chronogramme, c'est-à-dire que c'est de revoir ensemble ce qui est possible, ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. C'est-à-dire peut-être, c'est ce que je pense, qu'un certain nombre d'élections, on puisse les abandonner. Nous avons toujours dit que, par exemple, l'élection des collectivités territoriales, les maires et conseillers, pouvait être gérée par la loi. Et c'est ce qui a été fait d'ailleurs. Ça a été prolongé jusqu'à l'installation des nouveaux collèges. Donc on abonde ceci, que nous nous focalisons aujourd'hui pour revoir notre constitution, parce que ça aussi, ce n'est qu'un avant-projet, les discussions n'ont même pas commencé. Je suis étonné de savoir que c'est eux qui vont aller les vulgariser alors que ce n'est qu'un avant-projet. Comme vous avez dit tout à l'heure, que moi...
Le compte-rendu, je pense
que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, à mon avis. C'est pour ça que nous n'avons même pas été. Je n'ai pas été, on a été invité, on n'a pas été. C'est une perte de temps, ce n'est qu'un avant-projet. Travaillons sur cet avant-projet pour avoir un projet et que les gens puissent vraiment se retrouver dedans afin d'avoir une nouvelle constitution, de revoir, parce que ça aussi, de par la loi...
La parole à Adam Diko maintenant. Vous estimez également qu'avoir de bonnes élections dans ce contexte-là, avec ce processus d'organisation en cours, va être compliqué. Alors, comment avoir des élections acceptables?
Ok, des élections acceptables et transparentes. Moi, je crois toujours à la transparence des élections et surtout que
Vous pensez que ces élections pourraient être transparentes?
Pour moi, la transparence des élections va surtout dépendre vraiment de l'EJ, si elle est vraiment opérationnelle, parce que la sollicitation pour avoir une autorité ou un organe unique de gestion des élections, c'était par souci de transparence des élections, que l'administration n'ait pas la même mise sur les élections. Si l'EJ est opérationnel et que les dispositifs dans la loi, notamment la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, est respectée, avec l'appui des acteurs politiques, notamment les superviseurs et la société civile, je pense qu'on peut avoir des élections transparentes acceptables. Mais pour le moment, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut rapidement faire, d'abord, c'est de rendre effectif l'opération de la révision des listes électorales. Parce que les élections, ce n'est pas le jour du scrutin, c'est bien avant. Pour avoir des élections participatives, il faut que des citoyens soient sur la liste électorale. Il faut que ceux qui ont déménagé puissent les signaler. Il faut que ceux qui n'ont plus le droit de vote ou autre soient signalés. Donc, rendre effectif le processus de révision de la liste électorale. Rendre effectif les démembrements, l'opérationnalisation des démembrements des LEJ. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Aussi, intégrer les déplacés.
Les partis politiques, déjà, Noun Togo l'a dit, Amadou Aya l'a dit, qui s'attendre à des élections transparentes et crédibles serait, par exemple, en leurre. Est-ce que vous pensez que ce citoyen lambda, lui également, va avoir le courage d'aller participer à ces élections s'il n'a pas la garantie que ça va être des élections transparentes et crédibles?
C'est sa non-participation, très souvent, qui justifie pourquoi les élections sont votées. Nous avons vu ici les élections où il y avait une grande participation, même si on n'a jamais atteint les 50%. Mais tout le monde sait que quand il y a une grande participation, il est quasiment impossible pour l'administration de tricher les élections. Donc le citoyen aussi doit savoir que c'est sa participation qui va aussi déterminer la transparence d'une élection. Si tu ne participes pas, c'est très normal qu'on fraude à ta place. Donc les citoyens ont aussi leur responsabilité individuelle et engagée par rapport aux élections participatives mais aussi transparentes. Donc les acteurs politiques doivent jouer leur rôle. Et d'ailleurs, je profite de ce plateau pour dire que nous, sur le terrain, nous constatons vraiment l'absence des acteurs politiques par rapport à l'enrôlement pour la liste électorale. Nous sommes quasiment les seuls, les acteurs de la société civile, à sensibiliser les populations pour aller se faire enrôler, pour aller se faire enregistrer. Alors que c'est plus le travail des acteurs politiques.
Et rapidement, Amadou Aya, êtes-vous d'accord avec cela, votre absence?
Personnellement, moi je peux dire, en tout cas, je suis secrétaire général d'un parti, la CODEM. Je sais que j'ai signé beaucoup de mandats à l'intérieur où nos gens sont là, à l'intérieur, au Mali et à l'extérieur.
Pour les sensibilisations, Noum Togo.
Je pense pour la sensibilisation, nous devrons faire des efforts, les hommes politiques.
Donc vous reconnaissez cette absence. Et c'est ce qui met fin à ce débat. Nous aurons d'autres occasions pour parler de tout ce qui concerne élections, que ce soit la participation du citoyen lambda, le rôle des acteurs politiques de la société civile et évaluer au fur et à mesure avec les acteurs principaux, bien sûr, l'évolution de l'organisation de ces futures élections. Merci à nos invités, Noum Togo, président du Parti Union pour la sauvegarde de la République USR, Amadou Aya, porte-parole du cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie au Mali, Adam Diko, directrice exécutive d'AGICAD. À la régie vidéo et audio, Abdul Malik Al-Maimoun et Gagné Kanté, je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Bonne soirée à toutes et à tous.